rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour, Thibaut de Tuil au micro de Radio Présence pour votre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Pendant ce mois d'octobre, nous sommes accompagnés par Mgr Echène. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Évêque en Ariège. Et, la semaine dernière, nous avons parlé dans cette actualité brûlante de la révision des lois de bioéthique autour de la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le mois missionnaire, puisque le pape a décidé que d'une journée simple, ce qui était le cas encore jusqu'à l'année dernière, nous allons passer à un mois complet pour célébrer la mission. Octobre est le mois missionnaire mondial. Pourquoi est-ce que c'était un mois exceptionnel? Pourquoi est-ce qu'on est passé tout à coup? Et pourquoi est-ce que le pape a voulu passer d'une journée à un mois, Mgr Echène?
Je pense que la dimension missionnaire de la vie de l'Église est une dimension essentielle pour lui à travers les premiers messages qu'il nous a adressés. Cela est apparu tout de suite. D'ailleurs, la référence à François d'Assise, donc à ces missionnaires mendiants et itinérants du Moyen-Âge, est très importante pour lui. Il a aussi donné ce patronage à son pontificat. Donc on est dans un temps, mais on pourrait dire c'est le temps de l'Église, qui est un temps de la mission. Et c'est la fin de l'Évangile, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Mais pourquoi plus particulièrement maintenant?
Alors, particulièrement maintenant, parce qu'il y a une urgence, sans doute, parce que nous sommes dans un monde, au moins en Occident, il faut toujours relativiser.
Parce que le nombre de catholiques augmente dans le monde, donc pourquoi est-ce que... Or, c'est un mois missionnaire mondial, on ne faut pas le voir avec le tropisme uniquement de des églises qui se vident ou je ne sais quoi.
Alors c'est vrai que dans nos vieilles églises, entre guillemets, oui, il y a une vraie déchristianisation, oui, qui est quand même préoccupante parce que, y compris pour ce qu'on appelait autrefois les pays de mission, mais qui aujourd'hui sont ceux qui viennent nous évangéliser,
oui, tout à fait,
ces vieilles églises, oui, étaient des références. Oui. Mais malgré tout, il y a aussi dans des églises plus jeunes, je pense à l'Amérique latine, qui est un peu le bassin de population du pape François, ou l'Amérique du Sud, ou dans les églises de Corée, ou dans les églises d'Afrique, il y a aussi une pression très forte de mouvements chrétiens ou pseudo-chrétiens qui s'appuient sur des personnalités très charismatiques et qui battent en brèche aussi l'influence de l'Église catholique. Donc je pense que le pape se dit pas seulement dans une optique... j'allais dire, de concurrence de marché ou de loi du marché qui serait battue en brèche. Mais il se dit, peut-être que nous avons été, puisque nous étions dans une situation établie, nous avons été un peu en terrain conquis et on a un peu oublié cette dimension de la vie de l'Église. Peut-être aussi parce que, pour ma part, j'ai fait un travail il y a quelques années... sur le décret Ad Gentes du Concile Vatican II, qui est le décret sur la mission de l'Église. Mm-hmm. Et c'est tout à fait intéressant de voir que les pères du Concile, le premier schéma qu'on leur a livré était un schéma un peu de répartition des territoires entre les différentes congrégations religieuses. Alors tel territoire était plutôt réservé aux missions étrangères de Paris, tel autre aux jésuites, tel autre aux pères blancs. Bon. Mm-hmm. Et puis une répartition aussi des ressources économiques ou des subventions pour aider à la mission. Et puis très vite, les pères conciliaires se sont dit, mais on ne peut pas partir sur cette approche politique ou commerciale. La mission, ce n'est pas d'abord le fruit de quelques bons élèves qui sortiraient des meilleures écoles de commerce et qui se disent comment allons-nous gagner des parts de marché. La mission, elle a d'abord un fondement théologique. Elle est ancrée dans le mystère de la Trinité. Ce mystère de cette circulation d'amour qui depuis toujours existe en Dieu et qui à un certain moment, l'amour étant diffusif de lui-même, s'exprime par la création et ensuite par la rédemption quand la création est blessée. Donc finalement, les fondements théologiques de la mission de l'Église ou les fondements spirituels se situent dans la reprise en main de ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Et ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, c'est le salut qui nous est transmis par le Christ et qu'on veut faire partager à tous nos contemporains.
Et en fait, s'il retrouve une attitude qui devrait être celle de chaque chrétien, indépendamment de la situation qui est la nôtre aujourd'hui ou de celle qui est celle de l'Amazonie ou de celle qui est, etc.
Que nous soyons dans un territoire de vieille chrétienté ou dans un territoire dans lequel le christianisme est apparu depuis peu, à un certain moment, reprendre la mesure des appels contenus dans notre baptême et des appels qui nous engagent à la rencontre avec l'autre pour l'aimer au nom du Seigneur. J'aime bien interpréter la fin de l'évangile, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas les prendre de force, les tremper dans l'eau et leur dire je vous baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Baptiser ça veut dire immerger. Donc à un certain moment, c'est immerger nos contemporains, ceux que l'on rencontre, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, c'est-à-dire dans la découverte et dans l'amour même de Dieu qui existe de toute éternité. C'est-à-dire les plonger dans un océan d'amour qui est celui de Dieu. Après, dans la mesure où on favorise pour eux une rencontre avec le mystère de Dieu qui est un Dieu d'amour, on passe le relais à la conscience de chacun et au Seigneur lui-même. C'est pas à nous de comptabiliser ceux et celles qui deviendront ou deviendraient chrétiens. Mais nous, notre mission, c'est de rendre visible le visage du Christ, de faire découvrir que si Dieu existe, il est un Dieu immensément amoureux de nous et qu'il n'a qu'une envie, c'est de nous donner une plénitude de vie éternelle.
Est-ce un hasard, ou vous allez me dire non, j'espère, est-ce un hasard si le pape a souhaité ouvrir son synode pour l'Amazonie en plein mois de la mission? Quel est le lien?
Non, je pense que ce n'est pas un hasard. Alors, il y a sans doute des contraintes de calendrier, mais pas uniquement. C'est vrai que aujourd'hui, on est obligé de réfléchir, et c'est sans doute le cas en Amazonie, et comme on l'a toujours fait au cours de l'histoire de l'Église, à de nouvelles formes d'annonces. Il m'arrive de travailler aussi dans d'autres contextes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comme c'est un univers dans lequel il y a des possibilités d'annonces, mais le monde change tellement vite, il y a des enjeux tellement forts de justice, de vie humaine, de préservation aussi de notre maison commune. Et là, quand on parle de l'Amazonie, évidemment, ce qui est en cause, c'est pas seulement l'annonce de l'Évangile, mais c'est aussi la survie de l'humanité, parce qu'il va falloir qu'il reste des hommes auxquels on pourra encore annoncer l'Évangile.
Et ça dépend de ce poumon là-bas, qui est tellement loin de nous.
Et ça dépend, entre autres, de ce poumon vert. Il y en a d'autres sur la planète, mais c'est un des grands poumons qui... Le pape en ce moment, en lien d'ailleurs avec Yann Arthus-Bertrand, est en train de nous gratifier de quelques vidéos à travers le réseau de la vidéo du pape, là, qui est le réseau mondial de prière, sur ces deux poumons de la planète que sont les océans et les forêts. Alors, pour l'instant, elle vient d'être publiée. D'ailleurs, on a vraiment une magnifique vidéo qui s'appuie sur des images de Yann Arthus-Bertrand, sur ce poumon de la planète aussi, cette source de vie tout à fait extraordinaire que sont les océans. Et puis, je pense que la prochaine étape, ce sera la forêt.
Comment l'a trouvée, cette vidéo, en quelques mots?
Alors, on la trouve sous l'intitulé « Vidéo du pape ».
D'accord.
En tapant dans un moteur de recherche.
Pour nos auditeurs.
Et puis, avec le réseau mondial de prière. C'est d'ailleurs celui qui est responsable à Rome, un jésuite du réseau mondial de prière. C'est un ariégeois.
Ah, excellent. Alors, excellente transition. Passons de l'Amazonie à l'Ariège. Vous-même, vous avez une volonté missionnaire depuis toujours très forte et ancrée en vous. Vous avez, il y a quelques années déjà, demandé à un de vos prêtres d'être tout le temps en mission, de ne pas avoir une paroisse fixe.
Oui.
Et vous continuez, vous avez consacré aussi un de vos prêtres, vous lui avez demandé à un nouveau prêtre d'aller aussi dans cette... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour vous, la paroisse de demain est forcément en mouvement?
Alors oui, ce qu'on essaie de découvrir ensemble, chemin faisant, d'ailleurs en dialogue avec des recherches d'autres diocèses aussi, c'est de voir comment on pourrait, autrement que par un maillage territorial qu'on ne peut plus tenir, comment on pourrait aider des hommes et des femmes qui se reconnaissent comme chrétiens dans un lieu à prendre en main eux-mêmes sur leur territoire, dans leur village, dans leur quartier, sur leur lieu de vie, l'annonce de l'Évangile, afin que ces personnes, ayant reçu cet appel ancré dans leur baptême, viennent être épaulées. On parlait tout à l'heure des missionnaires itinérants que furent les, et que sont encore les dominicains ou les franciscains, afin de venir être épaulés par des ministres ordonnés qui, eux, ne résideront pas nécessairement, la plupart du temps, ne résideront plus dans leur paroisse, mais viendront les rejoindre pour relire avec eux la mission, comme le Christ, après avoir envoyé deux par deux ses premiers disciples, les 72 ou les apôtres, leur disait « Venez maintenant à l'écart, arrêtons-nous un peu, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce qui vous émerveille, qu'est-ce qui vous inquiète ?» Donc pour vraiment les épauler dans cette mission, les nourrir des sacrements, les former, y compris en lien avec une formation biblique et théologique, les réconforter, parce que la mission c'est dur, on rencontre aussi des difficultés, ou de l'indifférence, parfois de l'hostilité. Donc cette logique d'itinérance a sans doute de l'avenir. Alors il y aura des lieux et des personnes dédiées à l'itinérance, mais il y aura aussi des lieux fixes dans lesquels les gens pourront, eux, se déplacer, aller se nourrir de l'Eucharistie et trouver une communauté vivante.
Bien, de nouvelles formes encore à inventer.
Oui, tout à fait.
Il faut beaucoup d'imagination pour.
Disons qu'on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix.
On est bien obligé d'être imaginatif. Alors on tente des choses sans les absolutiser immédiatement. Mais c'est très beau de voir d'ailleurs le prêtre chez nous, là, le père Antoine, qui est particulièrement dédié à ces missions itinérantes. Il va aussi se former en lien avec le congrès mission à Paris et dans d'autres lieux.
Tout à fait. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. À la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques,